J'aimerais vous inviter pour ce matin à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux, Épître aux Hébreux au chapitre 6.
C'est comme qu'elle ne sait pas du whisky, mais c'est de l'eau.
Merci, merci beaucoup. Épître aux Hébreux, chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 13. Hébreux 6, à partir du verset 13. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant « Certainement je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance ». C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Ainsi, par deux actes irrévocables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme, elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le titre de notre prédication de ce matin, l'espérance de la foi. Et j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur le thème suivant, l'espérance de la foi, une ancre de l'âme sûre et solide. L'espérance de la foi, une ancre de l'âme sûre et solide. Et l'ancre, vous savez ce que c'est, bien sûr. C'est cette pièce de métal avec une longue tige et deux pointes qu'on utilise pour ancrer les bateaux. Pour nous parler de cette espérance vivante que nous possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide, l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite l'exemple d'Abraham, à qui la promesse a été faite et à qui Dieu jura qu'il accomplirait certainement sa promesse. Ainsi, de la promesse au serment, 25 ans se sont écoulés. Pendant cette période, Abraham a dû apprendre à faire confiance à Dieu, à recevoir l'espérance de la foi comme une ancre de l'âme sûre et solide. À ce sujet, il n'est peut-être pas inutile de considérer brièvement trois étapes importantes et déterminantes de sa vie, des étapes vitales qui ont profondément marqué du sceau divin la foi du patriarche, qui l'ont affermie et rendue inébranlable. C'est par ces choses qu'Abraham est devenu notre père en la foi, afin que nous sachions que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, et que, par la grâce qui nous est commune, nous apprenions à imiter la foi des témoins d'autrefois. Ceci nous amène à notre premier point que j'intitule « De la promesse au serment en trois étapes ». Alors, il y en a eu beaucoup, mais comme je l'ai dit, je résume par trois étapes cruciales. Première étape, 40. Après avoir quitté Ur en Chaldée, Abraham, avec sa petite troupe, s'est arrêté à Charan. Là, il perdit son père, Terak. C'est à cette époque que Dieu renouvela son appel à Abraham et lui fit cette extraordinaire promesse « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, en ta descendance ». Par la perte de son père, Abraham apprit par la foi qu'il pouvait trouver en Dieu une nouvelle identité filiale, non plus naturelle et temporelle, mais spirituelle et éternelle. Dès lors, il savait avec certitude que son identité terrestre n'était que passagère, mais que son identité céleste était éternelle. C'est pourquoi il choisit et décida de rester comme étranger et voyageur sur cette terre, en attendant de pouvoir entrer dans la cité céleste qu'il a vue et saluée de loin. Car il a trouvé en Dieu son Père céleste, une patrie glorieuse, une maison divine, une famille spirituelle, un héritage éternel qui lui est réservé dans les cieux et qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, mais qui sera manifesté en son temps par la puissance infinie de l'Éternel qui lui a fait la promesse. Deuxième étape, Bethel. En ce temps-là, Abraham s'est séparé de son neveu Lot. Alors qu'il avait la prééminence, il laissa son neveu choisir la contrée où il élèvera son bétail. Et, comme nous le savons, Lot alla s'établir dans la plaine fertile du Jourdain. Mais pourquoi Abraham a-t-il agi ainsi? Parce qu'il savait déjà que Dieu peut bénir autant l'herbe des montagnes, sinon plus, que l'herbe des plaines, arrosée par le Jourdain. Car il avait compris que la prospérité matérielle ne dépend pas des efforts humains, mais de la bénédiction de Dieu, sachant que c'est elle seule qui enrichit, que c'est la bénédiction de Dieu seule qui enrichit véritablement et durablement. Par conséquent, Abraham, comprenant que les biens d'ici-bas sont futiles et éphémères, a mis les priorités à la bonne place et il n'a pas été déçu. Alors qu'il ne cherchait pas en premier lieu les richesses terrestres, Dieu lui accorda dans sa grâce de posséder beaucoup de biens. Mais il ne s'est jamais laissé posséder par ses richesses. Le patriarche Abraham, donc, a tiré les conséquences de sa nouvelle identité céleste et divine. Il a agi conformément à son nouveau statut d'héritier des promesses de Dieu en considérant le spirituel comme infiniment et éternellement supérieur au matériel. C'est pourquoi, dans son existence, il a placé Dieu en premier, en toute chose, sachant que Dieu son Père, qui avait fait de lui son ami, prendrait lui-même soin de lui pour subvenir à ses besoins. Et Dieu l'a oublié. Et Dieu l'a fait. Et Abraham a réalisé que Dieu ne fait jamais défaut, qu'il ne manque jamais d'accomplir ses promesses. C'est pourquoi il ne douta pas par incrédulité. Troisième étape, Morija. Cette étape dans la vie d'Abraham est particulièrement importante. Elle démontre d'une manière évidente la profondeur de sa foi, la fermeté et la solidité de sa confiance en Dieu. En effet, en obéissant à l'ordre de Dieu et en offrant son fils unique et bien-aimé en sacrifice sur la montagne de Morija, il démontre à n'en pas douter que sa foi est complètement enracinée en Dieu et en ses promesses. Son obéissance sans faille à la volonté de Dieu, alors qu'il s'agissait d'un ordre humainement parlant incompréhensible, montre que, malgré les interrogations qui pouvaient jaillir dans son esprit, qu'il connaissait si bien son Dieu, qu'il savait avec certitude que Dieu serait obligé de ressusciter Isaac s'il voulait accomplir sa promesse. C'est pourquoi Abraham était prêt à sacrifier son fils, mais pas la promesse. Il était prêt à sacrifier son fils, Isaac, mais pas la promesse de l'Éternel. Il gravit la montagne avec son fils, probablement le cœur en peine. Mais il savait d'avance qu'il reviendrait vers ses serviteurs, avec Isaac. Et Dieu honora sa foi. Et voyant son obéissance, jura par lui-même qu'il bénirait Abraham selon sa promesse et que le serment qu'il prononça ce jour-là était la garantie absolue de sa résolution en vue du salut des élus. Par cette épreuve, Abraham comprit que sa postérité ne sera pas d'abord naturelle, mais spirituelle. Une postérité engendrée par la parole divine, par la foi en la descendance qui viendra écraser la tête du serpent et qui ôtera le péché du monde et délivrera tous les élus de la perdition éternelle. Dieu donc, par une révélation progressive, claire et nette, montra à Abraham qu'il était désormais citoyen des cieux, pour toujours, et qu'en marchant par la foi fidèlement, il sera béni de toutes les bénédictions célestes réservées aux croyants fidèles. C'est-à-dire à ceux qui, par la foi, ont la promesse divine immuable, se confient en Dieu pour leur salut éternel et marchent librement dans l'amour filial qui vient de Dieu, en toute connaissance de cause, dans l'obéissance de la foi. Résumons jusqu'ici. Abraham, notre père, en la foi, appelé par Dieu, obéit et partit sans savoir où il allait, sachant que la promesse de l'Éternel ne pouvait manquer de s'accomplir. Il trouva en Dieu son identité réelle et éternelle. Il marcha alors en fixant les priorités par rapport aux choses d'en haut et non selon celles qui sont sur la terre. Il espéra, contre toute espérance, humainement parlant, offrit son fils en sacrifice et le retrouva comme par une sorte de résurrection, ce qui est une préfiguration pour les héritiers de la foi. Car l'espérance de la gloire éternelle, donnée à la foi et saisie par la foi, est une espérance vivante qui peut parfois tromper. Qui ne trompe jamais. Ainsi donc, tous les croyants qui croient comme Abraham et obéissent comme lui et qui se détachent des choses terrestres pour s'attacher vraiment et fermement aux choses célestes, tous ceux-là seront bénis avec Abraham le croyant parce qu'ils auront compris comme lui que la foi n'hérite pas de l'humain mais du divin, car seul le divin doit ressusciter. En un mot, par rapport au passé, Abraham trouve en Dieu et par la foi une nouvelle identité spirituelle, une nouvelle citoyenneté céleste. Il n'est plus d'ici-bas, il est d'en haut. Par rapport au présent, il met en œuvre la nouvelle priorité qui correspond à sa foi afin d'obtenir la prospérité qui vient de Dieu, la bénédiction promise à ceux qui obéissent, et cela non par contrainte, mais par amour et par reconnaissance. Enfin, par rapport au futur, il se détache de tout ce qui n'est qu'humain, même de son fils, par qui la promesse devait s'accomplir, pour s'attacher uniquement à la promesse divine par la foi. Et dans quel but ? Afin que Dieu lui dise « Ah, ben toi, t'es un bon type. » Non. Et dans quel but? Dans le seul et unique but d'attendre et de tendre vers la bienheureuse espérance, la manifestation du grand jour de la résurrection, où il pourra enfin entrer dans la cité dont Dieu est l'architecte, la nouvelle Jérusalem, avec tous les croyants de tous les temps, toi y compris. N'oublions donc pas qu'en tant que fils d'Abraham par la foi, notre identité n'est plus d'ici-bas, mais que notre citoyenneté à nous aussi est dans les cieux, d'où nous attendons notre Sauveur bien-aimé, notre glorieux Seigneur, qui nous a aimés, qui nous a rachetés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père et pour notre Père. Et puisque nous sommes descendants d'Abraham par la foi, en vertu de la croix de Christ, selon les plus grandes et les plus précieuses promesses que Dieu a faites, que Dieu nous a faites en Abraham notre Père, marchons à l'exemple du patriarche comme étrangers et voyageurs sur cette terre avec joie et courage, le cœur rempli de cette espérance divine que nous possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Et ceci nous amène à notre deuxième et dernier point que j'intitule « L'espérance de la foi, une ancre de l'âme sûre et solide ». Cette espérance vivante, quant à notre destinée éternelle, espérance que nous possédons par la foi et que nous retenons fermement, sans faillir, sans faiblir, encore et toujours par la foi, cette espérance est fondée sur deux éléments par rapport auxquels il est impossible que Dieu mente et à cause desquels nous trouvons un puissant encouragement et une pleine assurance au sujet de notre salut éternel. Ces deux éléments sont la promesse et le serment. Ils forment ensemble les deux pointes de l'ancre de notre âme. Cette ancre est sûrement et solidement plantée et attachée au très fond du cœur de Dieu en vertu de ses promesses immuables. Et la chaîne qui nous lie et nous relie à cette ancre, qui relie notre cœur à cette ancre, cette chaîne est incassable. Elle est indestructible. Reprenons ces deux éléments tour à tour. Premier élément de la pointe, de la première pointe de l'ancre, la promesse. Dès avant la fondation du monde, le plan de Dieu pour le salut des élus, c'était de les racheter de la malédiction du péché et de la condamnation éternelle par le sacrifice de son Fils sur la croix. Car c'est lui, le Fils unique de Dieu, qui a été établi de toute éternité pour écraser la tête du serpent et ôter le péché du monde. Et autant marqué par le Père, Jésus, le Fils de Dieu, fils d'Abraham, fils de David, et qui est la véritable descendance prédestinée depuis toujours, est venu accomplir le salut, afin que Dieu puisse déverser en abondance la bénédiction promise, la grâce divine sur tous les rachetés de l'Éternel. Et la promesse de Dieu à ce propos, donnée déjà à nos premiers parents en Éden, puis renouvelée à Abraham, à Isaac et à Jacob, déclarait formellement que tous ceux qui, à l'exemple d'Abraham, croiraient en celui qui justifie l'impie, leur foi leur serait imputée à justice, en vertu de la grâce et à cause de l'amour de Dieu pour les perdus. Car la pensée éternelle de Dieu était depuis toujours et pour toujours de sauver les pécheurs repentants par grâce, par le moyen de la foi, et non sur la base des œuvres de la chair, selon que l'homme s'imagine à tort bien sûr, et par lesquelles il est persuadé d'atteindre la justice divine par l'accomplissement de la loi. Par conséquent, puisque c'est par la foi et non par la loi que vient le salut, la promesse est donc absolument souveraine. Elle est certaine. Elle est éternellement vivante et valable pour tous ceux qui, en vertu de la grâce de Dieu et par le moyen de la foi, mettent leur confiance en Dieu au sujet de leur salut, selon qu'il est dit, le juste vivra par ses œuvres. Le juste vivra par la foi. Habacuc 2, verset 4. Ainsi donc, tous ceux qui sont sauvés par la foi, qui vient de Dieu, qui sont nés de Dieu, qui sont en Christ et en qui Christ habite, tous ceux-là, sans exception aucune, sont des enfants de la promesse, rachetés par le sang de l'agneau de Dieu qui, sur la croix, a tout accompli conformément à la volonté de Dieu. C'est ainsi, mes chers amis, mes frères et sœurs, que les fils d'Abraham dont vous êtes s'emparent la promesse faite à leur père et à tous ses descendants, non selon la chair mais selon la foi. Ils s'approprient donc cette promesse qui est la leur par la foi et peuvent ainsi légitimement, je répète, ils s'approprient donc cette promesse qui est la leur par la foi et peuvent ainsi légitimement en revendiquer l'accomplissement. Seigneur, tu l'as promis, tu ne peux pas faire autrement que d'accomplir ta promesse. Tu l'as promis, juré. Et peuvent ainsi légitimement en revendiquer l'accomplissement. Car toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en lui, puisque Dieu ne peut ni mentir, ni se renier lui-même. Et c'est ici la foi qui triomphe de presque rien en presque tout. C'est ici la foi, mes chers amis, qui triomphe de tout. Jean ne dit-il pas, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Deuxième élément, deuxième pointe de l'ancre. Première pointe de l'ancre, la promesse. Et maintenant, deuxième pointe de l'ancre, le serment. Lorsqu'Abraham, sur le mont Morija, allait offrir son fils en sacrifice à Dieu, Dieu voyant qu'il était obéissant jusqu'à donner son fils, par lequel la promesse devait se réaliser, dit au patriarche, « Parce que tu as fait cela, je le jure par moi-même, je te bénirai. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, puisque tu as obéi à ma voix. » Quand Dieu fit le serment au patriarche en disant « Parce que tu as obéi à ma voix, oui, je le jure, je te bénirai », serait-il en train de dire que contrairement au salut par grâce décrété depuis toujours, l'accomplissement de la promesse faite avec serment ne se réaliserait qu'à condition que le croyant obéisse ? Parce que tu as obéi à ma voix, je le jure, je te bénirai. Alors obéissons. L'accomplissement de la promesse faite avec serment ne se réaliserait-elle qu'à condition que le croyant obéisse? La question est subtile, hein? Jamais de la vie. Dieu ne se contredit jamais. Dieu ne change pas. Ce qu'il dit se réalise toujours. Il ne peut en aucun cas et à aucun moment en être autrement. Sinon Dieu ne serait pas Dieu. Mais alors, que veut dire Dieu en disant « Parce que tu as obéi, je le jure, je te bénirai » Qu'est-ce que Dieu veut dire à Abraham et à nous? Dieu veut nous dire ceci. L'obéissance d'Abraham, tout au long de sa vie, et particulièrement quand il a obéi à la voix de Dieu dans cette affaire, est la preuve absolue, irréfutable, que sa foi est d'origine divine et qu'elle porte en elle, conformément à la volonté de Dieu, le vouloir et le pouvoir d'obéir au commandement de Dieu. Et cela, par la puissance divine qui se manifeste dans le cœur du croyant lorsque celui-ci entend la parole de Dieu. Car il faut le dire et le redire, la parole crée elle-même la capacité et la possibilité d'obéir chez ceux qui se soumettent à Dieu en faisant ce qu'il veut, comme il veut. Pas n'importe comment. Autrement dit, Dieu suscite la foi dans le cœur de ses serviteurs. Il les instruit et les conduit par sa parole. Et en même temps, il crée dans leur cœur, lorsque leur foi est armée pour le combat, la bonne disposition d'esprit. Et met en eux la force et la sagesse divine requises afin qu'ils pratiquent les commandements de Dieu. Selon qu'il est dit, Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Selon qu'il est dit aussi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En un mot commençant, la foi est en même temps conviction de salut et en même temps consécration au salut par la puissance de la parole de Dieu. La foi, donc, invisible dans sa nature, mais réelle et vivante, démontre d'une manière visible et tangible les réalités divines invisibles. À l'exemple de Dieu, qui manifeste sa puissance invisible par la création que l'on peut voir et contempler à l'œil nu. Ainsi en est-il de la foi. Par voie de conséquence, possédons-nous la même foi qui est agissante par la même parole de Dieu, parole vivante et permanente, qui nous a régénérés et qui, toujours par la même puissance de Dieu, nous donne d'obéir à Dieu et de mettre en œuvre, par amour pour Dieu, la volonté de Dieu, volonté qu'il nous communique par sa parole. Alors, s'il en est ainsi, comme pour Abraham, quand nous obéissons à la voix de Dieu, non pour mériter le salut ni quoi que ce soit d'autre, mais par amour pour Dieu qui nous a sauvés, Dieu nous dit et nous redit encore et toujours que notre obéissance prouve la réalité divine de notre foi et que par conséquent, nous sommes véritablement sauvés. En effet, mes chers amis, c'est ainsi que Dieu rend témoignage à notre esprit, à notre foi, par sa parole et par son esprit, afin que nous sachions que nous sommes ses enfants. Alors nous pouvons dire, en toute filialité, en toute liberté et en toute connaissance de cause, nous pouvons dire « Abba, Père ». Et pourquoi ? Parce que maintenant et pour toujours, l'espérance de notre foi n'est pas fondée sur des éléments subjectifs, mais sur la vérité objective de sa parole qui est immuable et éternelle, comme Dieu lui-même est éternel et immuable. Ce n'est pas que Dieu méprise nos sentiments, mais connaissant leur nature fluctuante, il veut que notre certitude, notre assurance du salut soit sûre et solide. Inébranlable. C'est la raison pour laquelle il rend témoignage à notre foi d'une manière objective, accessible et compréhensible. Si tu obéis par ma puissance, tu es donc mon enfant. Un point, un trait, c'est fini. Car Dieu nous connaît. Et il sait que notre motivation pour le service de l'Évangile doit s'enraciner et se développer dans le terreau de la parole immuable de Dieu, afin que notre foi, de même nature que celle d'Abraham, notre père, produise la même confiance en Dieu et la même obéissance pour Dieu. Croyez-vous que notre foi doit produire autre chose que la foi d'Abraham ? L'apôtre Pierre ne dit-il pas que nous avons tous reçu en partage une même foi ? tous. Afin que notre foi, de même nature que celle d'Abraham, notre père, produise la même confiance en Dieu et la même obéissance pour Dieu. Et là, je suis dans mes petits souliers. Et pourquoi ? Afin que Dieu puisse nous dire, comme il a dit à Abraham autrefois, parce que vous avez écouté ma voix, parce que vous avez obéi à mes ordres, je le jure, je vous bénirai. Oui, j'en fais le serment, certainement je vous bénirai de toutes les bénédictions célestes. Et Dieu achève toujours ce qu'il commence. Pourquoi Dieu peut-il parler ainsi, avec tant d'assurance et d'aplomb ? Ne sommes-nous pas faillibles ? Ne branchons-nous pas de plusieurs manières ? Sommes-nous meilleurs que les témoins de la foi des temps anciens ? Sommes-nous plus excellents qu'Abraham ? Nullement. D'ailleurs, eux aussi ont branché. Et cela n'a pas empêché Dieu de les conduire au but, à la destination éternelle. Et pourquoi l'a-t-il fait quand même ? Oh, parce qu'il a dit, ben, puisque c'est toi, je ferme un œil. Parce que Dieu a choisi de nous aimer. Il a décidé en lui-même et en son Fils, en vertu de la croix de Christ, à cause de son amour pour nous, de faire de nous des rachetés de l'Éternel. Il a voulu, dans son bienveillant dessein à notre égard, nous donner à Jésus, faire de nous un cadeau pour Jésus. Il a voulu, dans son bienveillant dessein à notre égard, nous donner à Jésus son Fils premier-né, mort et ressuscité pour nous, afin que nous soyons ses frères et ses sœurs, son épouse, pour toujours. Et si Dieu, dans son amour infini, nous a sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, alors que nous étions ses ennemis, morts dans nos péchés et dans nos fautes, voués à l'enfer éternel, à combien plus forte raison maintenant que nous sommes ses enfants, Dieu nous donnera-t-il aussi toutes choses pour l'amour de Jésus qui nous a sauvés ? C'est pour cela que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien suprême. Parce qu'il veut nous conduire au but, selon le plan de salut pour nous. Il le fait parce qu'il nous aime, et il nous a destinés à la gloire éternelle. Et cela, non à cause de nos mérites, comme on l'a chanté tout à l'heure, mais à cause de sa grâce souveraine, en vertu de laquelle il nous a inscrits dans le livre de vie, dès avant la fondation du monde. De plus, ceux que Dieu aime, qu'il a choisi pour le salut, qu'il a destiné à la gloire éternelle, pour qu'il soit l'Église et l'épouse de son Fils, ceux-là, sans exception aucune et sans condition aucune, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est-à-dire déjà conduits au ciel et introduits dans la gloire éternelle. Christ. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Car à cause de nous, il n'a pas épargné son Fils, comme il a épargné le Fils d'Abraham, mais il l'a livré lui-même en rançon pour nos péchés. De plus, dans ce but, Christ est mort pour nous. Il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Car nous sommes morts avec lui, ressuscités avec Christ, et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, notre vie paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui. Dans la gloire éternelle. Mes chers amis, si donc Dieu a trouvé le moyen de nous sauver alors que nous étions loin de lui, ses ennemis, embourbés dans les sables mouvants du péché et de la mort, à combien plus forte raison maintenant que nous sommes ses amis, mettra-t-il tout en œuvre pour nous amener au but, car rien n'est impossible à Dieu pour celui qui croit. En effet, ayant reçu le Christ, selon le mystère de sa grâce, nous sommes nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ainsi, en tant que tel, à cause de notre nouveau statut d'enfant de Dieu, Dieu nous donne de saisir l'espérance qu'il propose, de la posséder, de la maintenir et de la retenir jusqu'à la fin. Retiens ta couronne, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Au reste, nous savons fort bien, Dieu veut notre obéissance. Mais ne l'oublions pas, soyons-en conscients, en toute intelligence spirituelle, que Dieu donne toujours ce qu'il ordonne. Et cela indépendamment de ce que nous sentons ou ressentons, car Dieu est fidèle. Ainsi, nous persévérerons jusqu'à la fin et nous recevrons la couronne de vie promise à tous ceux qui aiment Dieu. Telle est l'espérance de notre foi. Elle est vivante en nous, est vivifiante pour notre salut. Elle est notre paix, notre pardon, notre confiance, notre assurance, comme étant l'ancre de notre âme, sûre et solide. La première pointe de cette ancre, c'est la promesse. La deuxième pointe de cette ancre, c'est le serment. Deux éléments, aussi sûrs et solides l'un que l'autre, ils sont notre vie éternelle. En effet, la promesse et le serment sont ancrés dans le cœur de Dieu à jamais. Rien ni personne ne pourra arracher l'ancre de notre âme du cœur de Dieu. D'ailleurs, il faudrait déjà arriver jusque là-haut. De plus, la chaîne qui nous lie et relie à l'ancre de notre âme, ancre qui est, je le répète, profondément enfoncée dans le cœur de Dieu, cette chaîne, c'est l'œuvre de rédemption de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, rédemption à laquelle Dieu nous a appelés et pour laquelle il nous a sauvés. Et vous avez été scellés par l'Esprit pour la rédemption au jour où vous avez cru. Cette chaîne rédemptrice ne peut donc jamais être brisée, car alors il faudrait anéantir Dieu. Et cela est impossible. Ce n'est pas tout. J'arrive au bout. Dans notre cœur, c'est Dieu lui-même qui a fixé la chaîne. Elle est tenue et maintenue par l'Esprit de notre Dieu et par Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, qui veille sur nous et prie pour nous. Et dans notre intimité avec lui, il nous dit et nous redit sans cesse que personne ne peut détacher cette chaîne de notre cœur, ni la détruire, car c'est sa main qui la tient. Et nous sommes dans sa main, et nul ne peut nous ravir de sa main. De sa main puissante et forte. Tout peut s'écrouler autour de nous. Les montagnes peuvent chanceler, les collines s'affaisser, le soleil et la lune disparaître, les ténèbres couvrir la terre, la peur et l'angoisse nous étreindre, nos mains n'avoir plus rien à quoi s'agripper, notre foi vaciller, notre esprit s'alarmer, notre corps dépérir, les cieux et la terre passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Telle est l'espérance de notre foi. Cette ancre de notre âme est plus sûre et plus solide que tout ce qui est visible et tangible. Par l'œuvre de Christ à la croix, par sa mort et par sa résurrection, elle est entrée dans le tabernacle céleste, elle pénètre au-delà du voile dans le lieu très saint pour être fixée effectivement et définitivement à l'autel de la grâce où Jésus a répandu son sang. Et le sang de Christ est la garantie de notre salut. Par conséquent, l'espérance de notre foi, l'ancre de notre âme, nous entraîne et nous enchaîne à jamais au port de l'Évangile. Ainsi, par la promesse et le serment, Dieu nous encourage puissamment à marcher dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus, qui engendre en nous la foi, la développe et l'amène à la perfection, c'est-à-dire à la destination pour toujours. Abandonnons-nous donc à Dieu. Amen.